Pendant cette semaine, ce que l'on appelle les paraboles du royaume. C'est un sujet évidemment essentiel, puisque c'était l'essentiel aussi du message de Jésus. Ce matin, je voudrais faire une sorte d'introduction sur ce sujet-là et définir deux points essentiels. Premièrement, qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Et deuxièmement, pourquoi appelle-t-on une série de paraboles les paraboles du royaume? Qu'est-ce que c'est que le royaume? Donc, premier point, parabole. Parabole, ça vient d'un mot grec, parabolos, qui traduit un mot hébreu, machal. Machal, ça veut dire essentiellement des comparaisons, des exemples. Et quand on parle comme aujourd'hui en hébreu moderne, et que l'on emploie cette expression « par exemple », comme en langue française, on dit « les machals », ça veut dire « en forme de parabole ». Donc ici, des exemples. La parabole, on la trouve déjà dans ce que les chrétiens appellent improprement l'Ancien Testament, je fais une petite parenthèse ici, c'est la seule fois pendant cette semaine que j'emploierai cette expression que j'exècre, « Ancien Testament ». Ça veut dire quelque chose qui est caduque, dépassé, qui ne nous concerne plus. Jamais dans le Nouveau Testament, ce que nous appelons l'Ancien Testament n'est appelé de cette manière. Deux fois cette expression apparaît dans les épîtres de Paul, et dans les épîtres de Paul, mais pas dans le sens que l'on lui donne aujourd'hui. J'emploierai donc l'expression que Jésus et les apôtres employaient. Il parlait de l'écriture ou des écritures, car à leur époque, la seule Bible qui existait, c'était justement ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Donc dans l'écriture, il y a peu de paraboles. Il y en a quelques-unes, j'en citerai essentiellement deux. La parabole de Yotam, le fils de Gédéon, après que ses frères aient été tués par... le dernier des frères, Abimelech, donnera, avant de s'enfuir, une parabole sur les arbres. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, vous n'aurez qu'à relire ça dans le livre des Juges. Mais la parabole la plus connue dans l'Écriture, c'est la parabole de Nathan à David sur la brebis du pauvre. Mais disons, le genre de parabole n'était pas très très développé dans l'Écriture. C'est un genre littéraire qui va se développer à la période de ce qu'on appelle le Second Temple, ça veut dire, là, grosso modo, la période du Nouveau Testament, ça c'est une expression biblique, on peut la garder, et c'est un genre littéraire qui est très très répandu à cette époque-là. Beaucoup de chrétiens s'imaginent que la parabole, c'est quelque chose que Jésus a inventé, ce n'est pas vrai. Des centaines de paraboles des sages de l'époque de Jésus nous sont parvenues. Jésus donc s'inscrivait dans cette grande lignée des sages qui enseignaient, qui illustraient leur enseignement par des paraboles, c'est-à-dire par des comparaisons, par des exemples. La grande différence, c'est que Jésus est celui qui a porté l'art de la parabole à sa perfection. Jésus était un maître parabolier. Et une différence entre Jésus et les sages d'Israël, c'est que les sages illustraient leur enseignement par des paraboles, tandis que Jésus enseignait uniquement par des paraboles. Je voudrais lire un texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, nous lisons d'abord au verset 1er. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblèrent auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Et ensuite, nous lisons au verset 10, toujours du même chapitre 13. Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et qu'à eux, cela ne leur a pas été donné, car on se donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas. En entendant, ils n'entendent, ils ne comprennent. C'est pour eux que s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez bien, vous ne comprendrez pas. Regardez bien, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les yeux, ils ont fermé les oreilles, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de se convertir en sorte que je les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En réalité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Dans ce texte fondamental, Jésus explique pourquoi il privilégiait l'enseignement par parabole. Parabole, c'est aussi quelque chose que l'on trouve dans un livre qui porte ce nom dans l'Écriture. Dans notre langue française, on appelle ce livre le livre des proverbes. En hébreu, c'est le même mot, machal. Et le livre des proverbes, c'est le livre des méchalim, des exemples. Comme une eau fraîche pour un cœur fatigué, telle est une bonne nouvelle qui vient d'une terre lointaine. Alors, les livres des proverbes sont des courtes paraboles, des courtes comparaisons qui tiennent en un ou deux versets maximum, comme je viens de l'exprimer. Mais c'est quelque chose qui appartient à la même réalité. Le livre des Proverbes est un livre très spécial qui fait partie de ce que l'on appelle les livres de la sagesse. Le canon de l'Écriture se divise en trois parties, d'ailleurs, que Jésus cite dans le chapitre 24 de l'Évangile de Luc. Lorsqu'il apparaît vivant le soir à ses disciples après la résurrection, il leur dit, parlant de sa mort et de sa résurrection, « Il fallait que s'accomplisse de moi tout ce qui a été écrit dans la Torah de Moïse, chez les prophètes et dans les psaumes. » Ces trois expressions sont le résumé du canon de l'écriture juive jusqu'à nos jours. Ce qu'on appelle en hébreu « Tanakh », qu'on a traduit par « Bible », comprend en effet d'abord la Torah de Moïse, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ensuite, nous avons les prophètes, qu'on appelle les premiers prophètes, chez nous ça s'appelle les livres historiques, mais dans le judaïsme ça s'appelle les premiers prophètes, ça veut dire Josué jusqu'au deuxième livre des rois. Les derniers prophètes, ça veut dire ce que nous appelons les prophètes, à commencer par Ésaïe jusqu'à Malachie. Et puis, une troisième partie que l'on appelle en hébreu, Ketuvim, ça veut dire les écrits, et ce que Jésus traduit par les psaumes. Parce que les psaumes, c'est le principal de ces livres qui composent cette troisième partie du canon des écrits, ça veut dire ce qui n'est ni la Torah, ni les prophètes. Et on emploie aussi une autre expression pour désigner ces livres, les livres de la sagesse. Ils ne sont écrits ni par Moïse, ni par les prophètes, mais ils sont écrits par des sages. Des sages qui sont l'objet d'une inspiration aussi totale que pour les autres livres, mais qui appartiennent à un autre genre littéraire que les deux autres parties de l'écriture. Sages, la sagesse, les livres de la sagesse. Quand nous parlons de sagesse dans la Bible, dans le judaïsme, ça n'a rien à voir avec ce que nous appelons sagesse, nous, une notion que nous avons héritée des Grecs. Sagesse, pour nous, c'est pratiquement synonyme d'intelligence. Ça veut dire des gens qui sont particulièrement sagaces, particulièrement raffinés, etc. La sagesse biblique n'a rien à voir avec des capacités humaines, intellectuelles, naturelles. La sagesse, c'est un don de Dieu. La sagesse, c'est comme le dira l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens, une réalité mystérieuse et cachée que Dieu a tenue en réserve pour ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y a dans la sagesse une connaissance surnaturelle, on pourrait dire charismatique, de secrets qui sont inintelligibles pour la sagesse humaine. Paul nous dit ceci dans la première aux Corinthiens, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Et Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, le mystère de la croix, dira l'apôtre Paul, est une folie pour les sages de ce monde. Mais c'est une sagesse pour ceux qui sont sauvés, parce qu'ils ont justement cette révélation d'Esprit de Dieu qui permet de connaître et de comprendre ce que même les sages de ce monde, qui se vantant d'être sages, sont devenus fous, mais même ces sages de ce monde sont incapables de comprendre avec toute la sagesse qu'ils avaient. Livre de la sagesse. Et le principal de ces livres de la sagesse, c'est justement le livre des paraboles, c'est-à-dire le livre des proverbes. Le livre des proverbes s'adresse à un personnage que l'auteur du livre appelle « mon fils ». Alors, ce n'est pas forcément son fils biologique. En hébreu, le mot « fils » peut s'adresser, avoir aussi la signification, le sens de « disciple ». Un disciple, c'est aussi un fils. Par exemple, Paul dira à Timothée « mon enfant ». À ses disciples corinthiens, il dira « quand bien même vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez qu'un seul père ». Aux Galates, il dit « mes petits-enfants, pour lesquels j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement ». Donc, ici, ce sont des disciples. « Mon fils ». Le fils dont il est question dans le livre des Proverbes, ce même livre l'appelle aussi, d'un mot difficile à traduire en français d'ailleurs, qu'on traduit en général par le mot « le naïf ». Ça veut dire un jeune qui n'est ni sage ni fou, qui ne connaît pas la vie, qui n'a pas d'expérience, et qui par conséquent se trouve en quelque sorte à la croisée des chemins. Et il y a un thème qui revient constamment dans la Bible, c'est le thème des deux voies, des deux chemins. Vous trouvez ça à la fin du livre du Deutéronome. Ainsi dit le Seigneur à Israël, j'ai mis devant toi deux chemins, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Choisis, mais choisis la vie. Et ce thème revient dans toute la littérature rabbinique. Alors, vous trouvez ça aussi à Qumran. Il y a deux chemins devant chaque homme. Deux chemins qui s'ouvrent, le chemin de la mort et le chemin de la vie. Et le naïf, il se trouve à cette croisée des chemins. Il doit choisir entre les deux chemins, mais il ne sait pas lequel est le bon et lequel est le mauvais. Et par conséquent, celui qui s'adresse à lui comme son père, mon fils, lui c'est le sage. Il connaît la valeur des choses. Et il va donner un enseignement à ce naïf qu'il appelle son fils, pour qu'il apprenne à choisir la bonne voie et qu'il apprenne à se détourner de la mauvaise. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et ces deux chemins dans le livre des Proverbes se confondent avec la sagesse et la folie. Le chemin de la mort, c'est la folie. Le chemin de la vie, c'est la sagesse. Et le but de l'auteur du livre, c'est d'enseigner à ce jeune la sagesse. Sagesse, pour le livre des Proverbes, c'est essentiellement quelque chose de très pratique. Comment se comporter dans la vie courante, dans les problèmes quotidiens, pour être agréable à Dieu et aux hommes. Voilà ce qu'est ici la recherche du sage. Le sage va chercher comment il faut se comporter pour réussir dans cette vie et dans la vie future. En hébreu, on appelle ça « derer haaretz », ça signifie « le chemin de la terre ». Comment marcher dans ce monde? Vous avez un verset du prophète Isaïe qui dit ça aussi. « Vous entendrez derrière vous la voix qui vous dira, voici le chemin, marchez-y ». Il y a un autre terme aussi dans le livre du prophète Jérémie qui nous dit ceci, placez-vous au carrefour, regardez, considérez quelle est la bonne voie et marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. choisir le bon chemin, choisir le chemin de la sagesse, c'est s'assurer la réussite, le succès, le bonheur, dans cette vie et dans l'autre. Par contre, choisir le chemin de la folie, c'est se donner l'illusion d'une réussite éphémère. Le chemin de la folie, comme le dira Jésus, dans une autre parabole, là, voyez-vous, on approche un petit peu de notre sujet, quand on lui demande, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Jésus dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte, et large est le chemin qui mène à la perdition. C'est le chemin facile. C'est la raison pour laquelle il y en a tant qui le prennent, parce qu'on a l'illusion sur ce chemin que puisque c'est facile, on va réussir à peu de frais, sans beaucoup d'efforts. Et cette réussite, elle va être une réussite immédiate. Vous trouvez ça aussi toujours dans le livre des psaumes, qui reprend un peu le même thème. Les deux chemins aussi, c'est le psaume premier. L'Éternel connaît la voie des justes, mais le chemin des pécheurs mène à la perdition. Et c'est le problème d'Asaf, qui voyait la réussite des méchants, au psaume 73, et qui dit, puisque les méchants réussissent, je vais faire comme eux. Et ça, c'est la réflexion de l'insensé, du fou. Et Asaf a failli marcher sur ce chemin de la perdition jusqu'au moment où il a réfléchi la sagesse. Et là, il s'est rendu compte qu'il y a un autre chemin, comme dit Jésus, le chemin étroit. Chemin étroit, beaucoup plus difficile, beaucoup plus ardu, mais un chemin qui est beaucoup plus sûr. Parce que malgré des embûches, des difficultés que Jésus ne cache pas et que les sages aujourd'hui n'ont pas caché non plus, eh bien, on arrive au but. On arrive à la réussite. Tandis que, comme le dit le livre des psaumes, le chemin large, le chemin des pécheurs, mène à la ruine, mène à la perdition. Maintenant, toujours dans le livre des Proverbes, sagesse et folie, donc chemin de la mort et chemin de la vie, sont symbolisés par deux femmes. L'étrangère, la prostituée, qui représente la folie, et qui représente donc le chemin de la mort. Et cette étrangère, aguichante, séduisante, proposant donc un bonheur et un plaisir facile, cherche à séduire et à fasciner ce jeune auquel s'adresse le livre des Proverbes, et qui est donc le fils de Naïf. Et précisément, la folie se présente de cette manière-là, sous une manière séduisante, facile, aguichante. De telle manière que, comme le dira Jésus, il ne faut pas s'étonner si la majorité des hommes se laissent prendre à cette séduction et préfèrent marcher sur le chemin étroit plutôt que de marcher sur le chemin large. Par contre, la sagesse se présente sous la forme de ce que le livre des Proverbes appellera la femme vertueuse. Cette femme dont la description d'ailleurs termine le livre des Proverbes, le chapitre 31, chapitre que tout juif pieux lit à ses enfants le soir du Shabbat pour qu'ils apprennent à honorer leur mère, entre parenthèses, et qui a égorgé ses victimes, a dressé sa maison et invite les passants à venir manger à sa table. Et voyez-vous ici, nous avons ici cette opposition entre ces deux femmes, sagesse et folie, prostituée et femme vertueuse. Et vous retrouvez ça aussi dans nombre de paraboles de Jésus. Notamment dans une très très célèbre parabole, la parabole dite des vierges sages et des vierges folles. Et vous retrouvez ici ce contraste entre ces deux femmes, les vierges folles, qui ont négligé par paresse, par négligence, de se munir d'huile, parce qu'elles ont eu une réflexion à courte vue, n'imaginant pas que l'époux pourrait tarder. Les sages, au contraire, ont pris cette hypothèse, cette possibilité en compte. Il se pourrait bien que l'époux tarde. Et cette réflexion était une réflexion de sagesse. Alors ils se sont munis d'huile. Et voyez-vous ici, nous voyons cette différence entre la conduite sage et juste, sur le plan pratique, et la conduite insensée. Parce qu'en effet, l'époutarde. Et parce que l'époutarde, tous s'endorment, les sages et les folles. Sages et folles, évidemment, ça représente ces deux femmes du livre des Proverbes. Pourquoi ? Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, parabole et proverbe, c'est le même mot en hébreu. Et la parabole est l'extension à cette période du deuxième temple de cette réflexion de la dernière partie de la Bible sur justement la sagesse, la conduite juste. Les sages, elles se sont conduites avec sagesse. Sur le plan pratique, elles ont prévu ce qui éventuellement pourrait arriver. Et elles se sont prémunies contre cet aspect des choses, c'est-à-dire le retard de l'époux, et elles ont pris de l'huile en prévision de cet éventuel retard. Les folles, au contraire, n'ont pas pris en compte cette hypothèse. Et elles ont négligé de prendre de l'huile. Elles s'endorment toutes. Les sages comme les folles. Ce qui n'est pas à votre touche. Parfois, dans certaines autres paraboles, le retard, ou plutôt l'assoupissement, c'est quelque chose de négatif, l'assoupissement spirituel. Dans le cas de notre parabole, ici, ce n'est pas le cas. Elles se sont endormies toutes, tout simplement, parce que l'époux tardait et qu'elles ont été gagnées par le sommeil. C'est naturel, c'est normal. Et soudain, au moment où on ne s'y attend pas, ni les unes ni les autres, ni les sages ni les folles, le cri retentit, l'époux arrive, allez à sa rencontre. Et c'est là qu'apparaît toute la différence entre sagesse et folie, entre sages et folles. Les sages ont eu la sage précaution de se munir d'huile. Elles sont surprises, autant que les folles, mais elles sont prêtes. Et par conséquent, elles peuvent entrer immédiatement dans la salle du festin. Les folles, au contraire, sont surprises autant que les sages, mais elles n'ont pas pris la précaution de se munir d'huile. Elles ne sont pas prêtes. Alors elles s'affolent, elles vont chercher de l'huile, et quand elles ont fini par en trouver, c'est trop tard, la porte est fermée, elles restent dehors. Voyez-vous, ici, le thème de la sagesse et de la folie est essentiel dans les paraboles. Les paraboles mettent en évidence la conduite sage et la conduite folle pour réussir ou pour échouer. Vous avez la même chose dans les paraboles des mauvais serviteurs. Le bon serviteur, évidemment, son maître tarde, c'est toujours le thème du retard de la parousie, si on aura l'occasion d'en parler, et il ne sait pas quand son maître va venir. Mais parce que justement il ne sait pas quand son maître va venir, eh bien, il est prêt à tout instant. Et que ce soit le matin, midi, le soir, la nuit, il est à l'œuvre. Et quand son maître arrive, il le trouve à l'œuvre. C'est la conduite sage. Et Jésus emploie une expression pour désigner cette sagesse. Quel est le serviteur prudent et avisé ? Vous avez la même expression dans la parabole des vierges. Picrine, ça veut dire prudent, avisé. Et par contre, le mauvais serviteur, qui en même temps est un serviteur fou, insensé, se dit, puisque mon maître tarde à venir, je prends du bon temps. Je mange, je bois, etc. Et son maître arrive au moment où il ne s'y attend pas, et forcément, c'est l'échec pour lui. Vous avez la même chose dans les paraboles des talents ou les paraboles des mines. Les deux premiers serviteurs qui ont eu la sagesse de faire fructifier les talents qui leur ont été confiés par le maître, tandis que le dernier serviteur, méchant et paresseux, comme Jésus le qualifie, lui est allé enterrer son talent dans la terre. Conduite juste et conduite erronée, qui a des conséquences, qui ont des conséquences tout à fait opposées. Pas dans le temps présent. C'est ça qui est intéressant. Finalement, dans le temps présent, quelle différence y a-t-il entre le serviteur qui est à l'œuvre et le serviteur qui fait la noce? Quelle différence y a-t-il entre les vierges sages et les vierges folles? Ou vous retrouvez la même chose aussi, par exemple, dans la parabole des brebis et des boucs? Et quelle différence dans ce temps occulte? C'est au dernier jour que la différence apparaît. Et là, nous touchons à un autre aspect de la parabole. La parabole, elle appartient, nous l'avons dit, au thème de la littérature de la sagesse. Et à la sagesse, à la littérature de la sagesse, appartient aussi à un autre genre littéraire dans la Bible, l'Apocalypse. Dans l'Écriture, il n'y a qu'une seule Apocalypse, l'Apocalypse de Daniel. Nous considérons, nous, chrétiens, Daniel comme un prophète. Et le livre de Daniel est joint au recueil des prophètes. Il appartient à ce qu'on appelle les quatre grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Dans la Bible juive, Daniel n'est pas placé parmi les prophètes. Il est placé parmi les livres de la sagesse, avec les psaumes et les proverbes. Et l'on considère que Daniel est un prophète, si l'on veut, mais il est plus qu'un prophète, il est essentiellement un sage. Un sage comme l'était, par exemple, Joseph. Et vous avez un texte intéressant dans le chapitre 2 de Daniel, au verset, verset 27. C'est la vision de la grande statue du roi Nebuchadnezzar, le rêve du roi. Nebuchadnezzar avait fait un rêve. C'était un rêve qu'il avait marqué, il savait que c'était un rêve prophétique. Mais comme ça nous arrive aussi parfois, on sait qu'on a rêvé, on se souvient plus du rêve. Alors il convoque tous ses devins, ses sages, ses astrologues. Il dit, voilà, j'ai fait un rêve, mais je sens que le Seigneur m'a parlé par ce rêve-là. J'aimerais bien avoir l'explication. Ah, il n'y a pas de problème, c'est ça, dis-nous ton rêve. Ah oui, le problème, c'est d'oublier le rêve. Alors là, on est bien embêté. Vous êtes des devins, vous n'êtes pas des devins. Vous devez être capable de deviner le rêve que j'ai eu. Ah non, c'est impossible, aucun devin sur la terre va faire une chose pareille. Bon, alors écoutez, si c'est comme ça, moi, j'ai plus confiance en vous, je vous les quitte tous. Et un décret de mise à mort des sages de Babylone est décrété par le roi. Daniel est parmi ceux-là. Et Daniel dit, écoutez, au bourreau, chef du bourreau, qui est en train d'exécuter les sages, dit, écoutez, laissez-nous encore un délai, je vais prier. C'est pas que je suis plus intelligent qu'un autre, mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle les secrets. Et Dieu va révéler le secret de Daniel, le secret du roi à Daniel. Et Daniel bénit Dieu, on peut dire ce texte si vous le voulez dans le livre de Daniel, parce qu'il nous donne justement aussi la définition de ce qu'est la parabole. Verset 22. C'est lui qui révèle, on peut le dire avant, il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière est auprès de lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu m'as fait connaître le secret du roi. Sans dire en hébreu. C'est pas l'hébreu, c'est l'araméen d'ailleurs, dans le texte là. Enfin bon, c'est presque pareil. Ras, un secret. Un mystère. Et voyez-vous, c'est ça l'Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire dévoilement de quelque chose qui est voilé, de quelque chose qui est caché. Et c'est en cela que l'Apocalypse, c'est un genre littéraire un peu différent de la prophétie. Je n'ai pas le temps d'entrer dans cette différence. Je l'avais fait il y a quelques années pour ceux qui étaient peut-être là, qui s'en souviennent encore. Mais disons, l'Apocalypse, c'est essentiellement la révélation de quelque chose qui est caché et que l'être humain, même le plus intelligent, est incapable de discerner par sa propre intelligence. Il faut pour cela une révélation de Dieu, comme ça a été le cas pour Daniel. Voyez-vous, même les sages de Babylone les plus intelligents étaient incapables de connaître le secret du roi. Il a fallu une révélation de la sagesse infinie et cachée de Dieu qui a été donnée à Daniel, qui est un sage, c'est-à-dire un apocalypticien. Et voyez-vous, il y a dans les paraboles des mystères. Comme ici, les questions du mystère. Tu m'as fait connaître le mystère du roi. Nous avons lu tout à l'heure, Jésus dit, il vous a été donné à vous, les disciples, de connaître les mystères du royaume de Dieu, tandis que cela ne leur a pas été donné. C'est aussi le thème du livre de Daniel, l'Apocalypse de Daniel et le livre des mystères. Et à la fin du livre, au chapitre 12, lorsque il est dit que Daniel demande ce qu'il doit faire de ces révélations qui étaient données, c'est le livre, dit l'ange, parce qu'il se révèle, il se réfère à des temps éloignés. Dans ce temps-là, la connaissance augmentera, des sages comprendront, mais les insensés ne comprendront pas. Tiens, on retrouve ici les sages et les insensés. Les sages sont capables de connaître les mystères du royaume de Dieu, les mystères de l'Apocalypse, les mystères de ce qui est caché, les mystères de ce qui est voilé. Tandis que les insensés et les méchants, c'est la même chose. L'insensé est un méchant et le méchant est un insensé. Les méchants sont incapables de comprendre les paroles du livre, sont incapables de comprendre ce qui est voilé. Et voyez-vous, la parabole appartient à ce genre apocalyptique. Aussi bien les paraboles des sages que les paraboles de Jésus ont trait aux choses dernières. Ça veut dire à la rétribution dans l'au-delà et à la venue du royaume de Dieu. Et là, justement, nous abordons cette expression mystère, plutôt parabole du royaume. Chaque parabole est une petite apocalypse. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que dans ces paraboles qui mettent en opposition sagesse et folie, la parabole des vierges, celle des brebis et des boucs, celle des méchants serviteurs, les talents, les mines, etc. Pendant le temps présent, on appelle en hébreu ce nom-ci, Aoulamazé, apparemment il n'y a aucune différence. Les vierges sont dans le tout. Les serviteurs méchants et mauvais, eh bien, sont aussi dans cette attente. Ceux qui font fructifier les talents ne sont pas tellement différents, extérieurement parlant, de celui qui est allé enterrer son talent dans la terre. Ce qui fait la différence, c'est la venue du royaume de Dieu, la venue du Messie, la venue de ce qui est le jour dernier. Là, la différence entre juste et méchant, entre sage et fou apparaît. Et voyez-vous, aussi bien chez Jésus que chez les sages, le but de la parabole, c'est de dire quelle est dans ce temps présent la conduite juste pour que vous soyez sauvés au dernier jour, pour que vous soyez de ceux qui vont prendre possession, qui vont hériter du royaume de Dieu. Pendant tout ce temps-ci, il n'y a aucune différence entre les uns et les autres. Mais c'est justement dans ce monde-ci que l'on adopte une conduite qui va faire la différence au dernier jour. Et toute parabole a pour but de définir ce que sera le sort des uns et des autres lors de la venue du royaume de Dieu. C'est pourquoi ce sont ces paraboles du royaume. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pour qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Pour qu'en le voyant, ils ne le voient pas. Parce que Dieu a endurci leur cœur, parce qu'il ne leur a pas été donné à eux de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais cela vous a été donné à vous, les disciples, heureux aux yeux de ceux qu'ils voient. Parce que leurs yeux à eux ne voient pas les méchants. Heureux de ce que vos oreilles entendent, parce que leurs oreilles à eux, les méchants, n'entendent pas. Parce que leur cœur a été endurci, tandis que vous, votre cœur a été ouvert par l'action de la sagesse de Dieu. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, dira Jésus dans un autre texte, parce que tu as caché ces choses aux sages intelligences, aux sages intelligences du monde. Tu les as révélées aux humbles, aux petits. Et voyez-vous, c'est toute la différence. Et avant de se mettre à l'écoute de l'enseignement de Jésus dans les paraboles. Cet enseignement qui, comme je l'ai dit il y a un instant, concerne la vue du royaume de Dieu, sont des petites apocalypses. il faut adopter une attitude intérieure. Et ce qui fait la différence entre ceux qui ont un cœur ouvert et ceux qui ont un cœur endurci, c'est la repentance. Jésus, comme Jean-Baptiste, prêchait le royaume et non pas l'Église. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et repentance, c'est de se tourner vers Dieu quand il y a un mouvement de Dieu vers vous. Et nous allons voir justement que, au travers de la vie du ministère de Jésus, comme celui de Jean-Baptiste qui l'avait précédé, Dieu avait visité son peuple. Dieu se tourne vers son peuple. Et face à cette visite de Dieu, quand on est visité par Dieu, quand on est visité par l'Esprit de Dieu, quand on est visité par l'Esprit de sagesse, par l'Esprit de révélation, il faut à son tour se tourner vers Dieu. C'est ça la véritable repentance. Repentez-vous car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il y a eu un mouvement de Dieu qui a précédé ce mouvement de repentance. Souvent on comprend mal ce texte. Repentez-vous d'abord et vous verrez le royaume de Dieu après. Non, c'est l'inverse. Le royaume de Dieu est venu vers vous. Le royaume de Dieu a fait irruption au milieu de vous. On aura l'occasion de voir ça demain. Et en face de ces manifestations du royaume de Dieu, notamment au travers des signes et des miracles que Jésus accomplit, il faut répondre en se tournant vers Dieu. Et quand on se tourne vers Dieu, le cœur s'ouvre. Les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Et on devient capable de comprendre les mystères du royaume de Dieu. On est capable de comprendre quelle est la conduite juste à adopter dans ce temps pour que nous ne soyons pas confus au dernier jour, quand ce royaume de Dieu sera manifesté. Alors je vais terminer là-dessus pour ce matin. Pour nous aussi, ce qui est important pendant cette semaine, c'est de réaliser que, en Jésus, le royaume de Dieu a fait une irruption au milieu de nous. Et qu'il nous faut apprendre à discerner cette présence du royaume au travers de la présence de l'Esprit de Dieu. Dieu se tourne vers nous, il y a un mouvement de Dieu qui nous atteint. Et en face de ce mouvement, il faut répondre en se tournant vers Dieu. Et le contraire de la repentance, c'est l'endurcissement du cœur. On peut avoir ces deux attitudes, s'ouvrir à l'action de l'Esprit de Dieu, ou endurcir son cœur. Et on retrouve le thème des deux chemins. Celui qui ouvre son cœur au Seigneur, c'est le sage. Celui qui s'endurcit, c'est le fou. Et par conséquent, il va y avoir deux chemins. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, le chemin de la sagesse, le chemin de la folie, qui vont être la conséquence de cette attitude intérieure. Ça commence par une attitude intérieure, l'attitude du cœur. Que le Seigneur nous donne, dès ce matin, d'être ceux qui ouvrent, qui ouvrent leur cœur à cette visitation de l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de sagesse et de connaissance, qui veut prendre les choses qui appartiennent à Dieu et nous les donner. Dieu nous a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Jésus a dit de l'Esprit, il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il vous révélera les choses cachées. Voilà, justement, ce temps est un temps où le Seigneur veut nous révéler ces choses cachées, les choses de son royaume. Il vous a été donné, si vous ouvrez votre cœur, de connaître les secrets du royaume de Dieu aux autres. Cela ne leur a pas été donné. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, tu étais venu autrefois pour annoncer cette visitation de Dieu à ton peuple d'Israël, afin, Seigneur, que tes auditeurs puissent se tourner vers toi et avoir la connaissance des choses cachées qui pouvaient leur procurer la vie, qui pouvaient les amener sur ce chemin de la vie et de la connaissance, de la sagesse, qui pouvaient les amener à se détourner de la voie de la folie et de la mort. Seigneur, pour se comporter dans cette vie comme tu l'attends, afin de ne pas être surpris au dernier jour, mais d'avoir cette part au festin du royaume de Dieu. Et nous qu'arrivons à la fin de ce temps, Seigneur, tu nous montres que cette réalité est encore beaucoup plus actuelle qu'elle ne l'était de ton temps, parce que la venue du royaume est imminente. et que c'est maintenant qu'il faut choisir entre ces deux chemins. Tu nous rappelles ce matin que tu as mis ces deux chemins devant nous, le chemin de la vie, le chemin de la mort, celui de la malédiction et de la bénédiction, celui de la sagesse et de la folie. Seigneur, permets que, et dans ces humbles au cœur pur, purifions nos cœurs, nous puissions choisir le chemin de la vie et de la bénédiction, comme tu nous invites à le faire en disant « Choisis la vie afin que tu vives ».